quoi de neuf là-haut avec le chaos?
It's one small step for man. I was rolling on the moon one day.
La vue panoramique sur la Terre.
Attention pour les confinements. 5, 4, 3, 2, 1, top.
Bonjour, vous êtes sur RVR pour l'émission du mois de juin, Quoi de neuf là-haut avec le chaos. Bonjour David.
Bonjour Olivier.
Donc nous continuons notre abécédaire. Après la lettre T, télescope, nous arrivons à la lettre U. U comme quoi?
Comme Uranus, bien sûr. On a fait pas mal de planètes, on avait parlé de Neptune. Il était important de parler d'Uranus.
Donc c'est une planète qui se situe où alors déjà dans le système solaire? C'est la plus lointaine, c'est pas la plus lointaine?
Alors c'est pas la plus lointaine, puisque techniquement la plus lointaine c'est Neptune dont on a déjà parlé. Certains diront c'est Pluton, mais Pluton a été déclassé comme on le sait. Mais donc Uranus, ça fait partie des planètes extérieures du système solaire. On rappelle que généralement on a une classification, on a ce qu'on appelle les planètes intérieures, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Après, on a la ceinture d'astéroïdes et après les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Alors, parle-nous donc de cette planète Uranus.
Donc, je vous ai listé pas mal de planètes. Il faut bien se rappeler que pendant très très longtemps, pendant des siècles et des siècles et des siècles, il n'y avait que 6 planètes. Il était
visible, admis,
il n'y avait que 6 planètes, c'est ça. Et notamment, on va se placer en 1781, qui est l'année de découverte. Donc, on ne connaît que 6 planètes. Et comme depuis l'Antiquité, on a listé Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Terre. Et les anciens plaçaient Saturne comme la limite du cosmos. Personne n'était allé chercher plus loin. Et ce nombre de 7 corps célestes, en comptant le Soleil et la Lune, dans le géocentrisme, donc la Terre plus 7 corps célestes, était considéré comme parfait, immuable. Aristote nous avait dit c'est un système parfait, etc. Bon. Arrive un musicien.
Ah bah, rien à voir avec l'astronomie.
Rien à voir avec l'astronomie. On en a déjà un petit peu parlé lors d'une émission il y a l'année dernière. Un musicien anglais qui s'appelle William Herschel, qui pratique l'astronomie amateur.
Et la musique.
Et la musique. Alors, c'est son métier, la musique, mais en l'occurrence, sa passion, sa petite passion, c'est l'astronomie. Il n'a pas du tout les moyens financiers d'acheter un télescope, donc il construit les siens, c'est-à-dire qu'il les fabrique. On est encore vraiment à une époque où on fait tout de ses propres mains. Hein. Et donc, il polie lui-même consciencieusement un miroir pour fabriquer le sien. Et puis, il observe depuis son jardin, hein, en Angleterre, précisément dans une ville qui s'appelle Bath en Angleterre, 19 New King Street précisément, si vous voulez retrouver l'adresse.
Soyons exacts.
Qu'il y a un musée actuellement à cet endroit-là. Et il fait le catalogue notamment, il a une petite passion, il catalogue les étoiles doubles, alors un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'on regarde chaque étoile et on dit est-ce que cette étoile, on l'observe à l'œil nu, c'est une étoile, mais au télescope, est-ce que c'est une étoile double?
Un gros boulot. Hein.
Bon, ouais, il fallait être passionné.
Un peu
quand
fastidieux.
Même, parce que c'est
un peu fastidieux.
Ouais, vraiment un travail de fourmi. Et puis, à la frontière des constellations des Gémeaux et du Taureau, il remarque une petite tache. Alors, il change d'oculaire. On rappelle, l'oculaire, c'est ce petit embout qui permet de modifier le grossissement de son télescope. Il va passer successivement, grossissement, fois 227, puis fois 460, puis fois 932. On est sur des très forts grossissements. Et puis, il se rend compte que l'objet, à chaque fois qu'il change d'oculaire, cet objet, il double de taille. Et ça, c'est... Quand on pratique l'astronomie, c'est quelque chose qui instantanément nous fait tiquer, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Si vous regardez une étoile, comme il le faisait, comme il cherchait des étoiles doubles, quand on regarde une étoile, on a beau grossir, une étoile reste toujours un point.
Oui. Simplement,
elle est très très loin. Donc même si elle est, on la grossit, elle reste loin. La seule explication que voit William Herschel au fait que cette étoile en apparence grossisse, bah, c'est que ce n'est pas une étoile. Ça ne peut pas être une étoile. Donc la question... Qu'est-ce que c'est? Alors à cette époque, c'est la folie, on cherche les comètes.
Ah.
Tout le monde est passionné de comètes.
Comme on donne son nom à une comète.
C'est ça, voilà. Et c'était le Graal, il fallait, tous les astronomes cherchaient des comètes. Alors Herschel contacte l'astronome royal, hein, il y avait à cette époque-là un astronome royal, donc à l'époque il s'appelait Neville Maskelyne, hein, qui lui répond, moi, effectivement, je l'observe, je ne sais pas trop ce que c'est, on ne sait pas, c'est peut-être une planète, mais c'est peut-être une comète. Il faudrait calculer l'orbite. Il calcule l'orbite et le verdict tombe. C'est bien une planète. Une planète qui se situe à 2,87 milliards de kilomètres du Soleil.
Donc c'est la première planète qu'on découvre depuis l'Antiquité.
C'est ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, il faut imaginer le séisme, c'est-à-dire que depuis l'Antiquité, et depuis même l'Antiquité très très reculée, oui, depuis les Babyloniens, on estimait qu'il n'y avait pas d'autres planètes, et là on en trouve une. Donc, s'ensuit... un phénomène que personne ne pouvait attendre, c'est qu'il s'ensuit une guerre énorme sur comment appeler cette planète. Alors, Herschel veut appeler sa découverte Georgium Sidus, l'étoile de Georges, en l'honneur du roi Georges III. Hein, on est toujours dans
il faut toujours bien mousser les
politiques pour avoir des financements. Et donc le roi Georges III, très honoré, voilà, lui verse donc une rente annuelle. Finalement, le contrat est rempli, il a réussi à se faire financer. Les Français, eux, décident de l'appeler Herschel.
C'est lui qui l'a trouvé.
Voilà. Et puis, il y a un astronome allemand qui s'appelle Johann Bode, qui lui va proposer Uranus. Uranus qui, dans la mythologie gréco-romaine, est le père de Saturne, et donc pour rester cohérent avec la tradition des autres planètes. Mais il faut se dire que cette guerre des noms, elle va durer longtemps. C'est-à-dire que, découverte en 1781... le nom Uranus ne va s'imposer qu'après 1850. Donc il va s'écouler 70 ans pendant laquelle tous les pays l'appelleront différemment, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on finisse par dire « Ok, Uranus, c'est quand même plus cohérent avec le reste. »
Alors, elle se présente comment, cette planète Uranus, aujourd'hui?
Alors, cette planète, c'est ce qu'on appelle une géante de glace. Alors, le nom n'est pas forcément... très bien choisi, puisqu'on imagine une boule de glace, c'est une boule de gaz. Donc, en astrophysique, glace ne signifie pas forcément solide. En fait, Uranus contient une proportion très élevée de substances volatiles, comme l'eau, l'ammoniac, le méthane, qui sont, sous forme de très haute pression, des fluides chauds. Et en fait, ces substances, elles sont appelées glaces parce qu'elles se solidifient à basse température. Mais à l'intérieur d'Uranus, elles sont dans un espèce d'état intermédiaire, entre liquide et solide, du fait des pressions et des températures extrêmes qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est une géante de glace, mais ce n'est pas vraiment de la glace. C'est un état de la matière un peu particulier. Elle a une couleur bleu-vert. La raison, c'est qu'elle contient beaucoup de méthane dans son atmosphère extérieure. Et c'est notamment l'explication de la différence de couleur entre Uranus et Neptune. Uranus est bleu-vert, Neptune est plus bleu. Et la raison, c'est que Neptune contient plus de méthane encore. Donc c'est juste un écart de méthane qui justifie la différence de teinte entre les deux. Alors attention, par contre, quand vous voyez des images de la NASA, souvent cette différence de teinte, elle est très amplifiée par rapport à la réalité. À l'œil nu, la différence de teinte n'est pas flagrante. En termes de taille, c'est une géante, on l'a dit, donc assez grande. Elle a un diamètre équatorial de plus de 51 000 km, donc il faut imaginer qu'elle est 4 fois plus grande que la Terre. Pour analogie, si la Terre était une balle de ping-pong, Uranus aurait à peu près la taille d'un ballon de foot. Et puis en termes de masse, Uranus est la quatrième planète la plus massive du système solaire. Elle est un petit peu moins dense que Saturne et Neptune, mais ça reste un beau bébé, comme on dit.
Et alors, est-ce qu'elle a une particularité par rapport aux autres géantes gazeuses, Jupiter, Saturne et Neptune, dont on a parlé, est-ce qu'elle a quelque chose à part cette petite couleur, différence de couleur?
Eh bien oui, Uranus, elle est très intéressante de par son comportement du point de vue axial.
Son axe de rotation,
c'est ça. Toutes les planètes tournent avec un axe de rotation qui est relativement perpendiculaire à ce qu'on appelle l'écliptique, c'est-à-dire le plan du système solaire. On sait que toutes les étoiles sont à peu près sur le même... toutes les planètes du système solaire sont à peu près sur le même plan, et leur axe de rotation est à peu près à 90. Voilà, la Terre est un peu inclinée. L'inclinaison axiale d'Uranus, c'est 97,8 degrés.
Mais elle est carrément
Complètement couchée. Et en fait, son axe de rotation, il est presque parallèle à son plan orbital. Et l'axe de rotation, il est presque orienté vers le Soleil. Donc en fait, il faut imaginer que Uranus, c'est comme si elle roulait sur son orbite.
Oui, au lieu d'être une toupie que l'on voit tourner,
On la voit rouler, c'est ça.
Est-ce qu'on a une idée de la cause de cet effet?
Alors, la cause probable, c'est sûrement un impact. Aujourd'hui, c'est la meilleure explication qu'on a. On estime qu'il y a environ 3 à 4 milliards d'années, un ou plusieurs impacts ont fait basculer la géante de glace sur le côté. C'est-à-dire qu'au moment
de la formation,
c'est très gros impact. Ouais. Hein. On imagine que c'est un impacteur à peu près de la taille de la Terre. Hein. Mmh. Donc c'est pas un petit événement, mais on imagine bien que, en fait, on a aucune raison de croire que lors de sa formation, elle n'ait pas eu un axe de rotation classique comme toutes les autres. Et donc la seule explication, c'est un impact. Et alors, il y a des conséquences qui sont très importantes sur les saisons, hein, puisque on sait que la Terre, en fait, comme elle présente finalement toutes ses faces vers le Soleil au cours d'une journée, ben, les saisons s'équilibrent relativement. Chaque pôle d'Uranus connaît environ 42 années terrestres de lumière solaire suivies de 42 années d'obscurité totale.
Il fait nuit pendant 42 ans.
Il fait nuit pendant 42 ans et jour pendant 42 ans.
Ça donne pas envie d'y aller. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment le régime de jour et de saison le plus extrême du système solaire. Et alors, pour rajouter à la bizarrerie, contrairement à la plupart des planètes du système solaire, Uranus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Et là,
c'est à l'inverse.
Donc c'est peut-être dû à l'impact, ça aussi.
Oui, c'est peut-être dû à l'impact. Donc en fait, si on était sur Uranus, le Soleil se lèverait à l'ouest.
Donc est-ce qu'il y a des satellites autour de cette planète bizarre ?
Eh bien, comme la plupart des... comme les grandes planètes gazeuses qui sont massives, elles attirent bien évidemment énormément de petits satellites. Alors on en dénombre aujourd'hui 27. Et comme Jupiter, eh bien Uranus a des anneaux. Uranus a 13 anneaux.
Comme Saturne aussi.
Alors qu'ils sont beaucoup plus fins, hein, on les voit beaucoup moins que Saturne. Mais oui, il y a pas mal de petites choses qui orbitent autour d'Uranus.
D'accord. Est-ce que, à part l'observation par un télescope, est-ce qu'on a envoyé des sondes spatiales observer de plus près Uranus aujourd'hui ?
Eh bien, la seule mission qui nous a apporté vraiment des infos aujourd'hui, c'est Voyager 2 en 1977.
Ça fait un bout de temps déjà.
Ça fait un bout de temps. Et donc Voyager a fait un grand tour du système solaire en profitant d'un alignement de planètes qui était exceptionnel, hein, qui ne se reproduira pas avant 2152. On a le temps de voir venir. Mais il faut imaginer que Voyager 2 est passé comme une balle. C'est-à-dire que
il
n'était
pas mis en orbite autour.
Non, c'est 6 heures d'observation et c'est tout. Donc il y a eu des clichés, mais une grande partie de ce qu'on sait aujourd'hui sur Uranus, c'est ces 6 heures de survol par Voyager 2.
Et est-ce qu'il y a d'autres missions qui sont prévues ?
Alors, il y a des missions qui sont planifiées, les budgets ne sont pas encore verrouillés. Il y a une mission qui est organisée, qui est en train d'être planifiée par la NASA, qui s'appelle Uranus Orbiter and Probe, UOP, dont le lancement est prévu en 2031, avec une mise en orbite en 2044.
Il faut le temps d'y aller.
Il faut le temps d'y aller. C'est 13 ans de voyage, hein, c'est très long. Si cette mission a bien lieu, ce sera écoulé 58 ans entre Voyager 2 et le second survol de cette planète. Et c'est une mission plus ambitieuse, hein, qui cette fois comporte un orbiteur qui étudierait la planète pendant 4 ans, une sonde atmosphérique qui serait larguée dans l'atmosphère pour mesurer directement la composition, la température, les vents, etc. Et alors pourquoi 2031 ? Parce qu'au début des années 2030, il y a Jupiter qui est parfaitement placé pour offrir une assistance gravitationnelle optimale.
Pour accélérer sans carburant.
C'est ça, pour vraiment optimiser, puisque ce qui est le plus difficile pour aller dans ces confins reculés du système solaire, c'est que c'est très coûteux en carburant. Donc on utilise des effets de fronde gravitationnelle, mais pour ça, il faut que les planètes soient bien positionnées. Et donc, si le lancement est manqué, si cette fenêtre de début 2030 elle est manquée, il y a une trajectoire directe vers Uranus sans Jupiter qui est envisageable, mais qui prendrait 2 ans de plus. Donc c'est pas négligeable, et elle arriverait bien moins bien positionnée par rapport aux saisons uraniennes, donc voilà, pas évident. Et puis c'est un projet, comme je disais, les budgets sont pas encore actés, puis c'est un projet qui coûterait plus de 4 milliards de dollars,
ouais,
on sait que dans le spatial, les dépassements sont quand même assez fréquents. Donc pour le moment, il n'y a rien d'approuvé, et le financement, on est dans l'incertitude.
On aura sûrement l'occasion d'en reparler si la mission se passe comme prévu en 2030.
On croise les doigts.
Nous allons maintenant faire une pause musicale avant de se retrouver pour la seconde partie de l'émission. Merci David.
Merci Olivier.
Thank you. vous êtes toujours sur RVR avec l'émission Quoi de neuf là-haut et le chaos. Bonjour Olivier.
Bonjour Aurélie.
Vous venez d'écouter Luna Rhapsody de Samuel Hoffman. Petite confidence, il s'agit de l'hymne officiel de la NASA pour la mission Apollo 11.
Je crois savoir de quoi on va parler aujourd'hui.
Absolument. Nous voici donc dans notre parcours historique sur les missions Apollo en 1969. Le mois dernier, on a évoqué la mission Apollo 10, qui a validé les procédures autour de la Lune. Et maintenant, nous allons aborder la fameuse mission Apollo 11.
Très connue, on va essayer de parler de choses qui sont un petit peu moins connues. Et je commencerai par parler des Soviétiques, parce qu'il y a toujours cette course à la Lune, on ne va pas l'oublier. Et donc, les Soviétiques n'ont pas complètement abandonné l'idée de battre les Américains sur le fil, même si, effectivement, là, au mois de juillet 69, ils sont quand même un peu en retard. Et ce qui va leur donner le coup de grâce, c'est que le début juillet, le 3 juillet 1969, ils vont lancer une nouvelle fois leur fusée lunaire, la fusée N1, qui est inhabitée, mais qui explose au départ et qui détruit leur pas de tir. Alors là, autant dire que là, la course à la Lune est pliée.
Compliqué, hein ?
Est pliée. Malgré tout, les Soviétiques ne se laissent pas faire et disent « Nous, on va envoyer une sonde automatique qui s'appelle Luna 15. Elle part le 13 juillet avant Apollo 11. L'objectif, c'est d'aller se poser sur la Lune, de ramener des échantillons avant les Américains. » En disant « On ne sera peut-être pas les premiers à avoir marché sur la Lune, mais on aura ramené des cailloux lunaires avant les Américains. » Et donc, ils lancent cette fusée juste avant le départ d'Apollo 11.
Ils n'ont rien lâché.
Rien.
Et cette sonde, la Luna 15, elle va réussir ?
Non, je vais te garder un petit peu de suspense dans cette émission. On en parlera dans un moment.
Bon alors, si on garde le suspense pour ça, on va parler de la mission Apollo 11. Dis-nous en plus.
Donc Apollo 11, l'équipage est connu, mais on va en reparler. Donc le commandant de bord, c'est Neil Armstrong. 39 ans, c'est son second vol dans l'espace. Le pilote du module lunaire, c'est Edwin Aldrin, qui a également 39 ans. Ce sont également son deuxième vol dans l'espace. On l'a surnommé Buzz Aldrin, c'est son surnom. Et le troisième, c'est Michael Collins. Il a également 39 ans, c'est son second vol. Donc en fait, ils ont tous 39 ans. C'est tous leur second vol. Aucun ne débute dans ce vol. Et le vol va être du 16 au 24 juillet 1969. Alors, il y a des petites anecdotes au niveau de la sélection de cet équipage, parce qu'au niveau de l'équipage, ils vont passer une semaine ensemble, il faut qu'ils s'entendent quand même, tous ensemble. Et il se trouve que Buzz Aldrin a un caractère difficile. On le sait au départ. Et quelques temps avant le départ, le chef des astronautes, qui s'appelle Dex Layton, propose à Armstrong, comme c'est le commandant, de dire on va remplacer Aldrin par un autre cosmonaute qui s'appelle Lowell. Et Armstrong dit il a un caractère difficile, mais non, on va garder l'équipe en place jusqu'au bout, même si il a un caractère difficile, mais je m'en accommoderai.
Ils ont bien fait, je pense.
Voilà.
Tu nous disais que Edwin Aldrin, son surnom c'est Buzz Aldrin. Il lui vient d'où ? Parce que Buzz l'éclair, ça n'existait pas encore.
Non, en fait, il a raconté que c'était sa petite sœur. Quand elle était petite, au lieu de l'appeler brother, frère, elle n'arrivait pas à prononcer correctement, elle l'avait surnommé Buzz. Et donc, c'était resté. Et lui, il aimait bien ce surnom. Et il se fait d'ailleurs toujours appeler Buzz Aldrin.
Et en parlant de son mauvais caractère, mais qu'on avait déjà vu lors de sa première mission, qu'on avait commenté sur RVR, comment s'est traduit ou comment se traduisait ce mauvais caractère au sein des missions ?
Eh bien, il avait un caractère en disant « moi, je veux être le premier, surtout ». Donc, on rappelle quand même, c'est des pilotes de chasse, c'est des gens qui sont quand même d'un haut niveau technologique. Mais il avait demandé, lorsqu'il a su qu'il était muté sur cette mission qui allait marcher pour la première fois sur la Lune, d'être le premier. Or, la NASA préférait que ce soit le commandant qui soit le premier à marcher sur la Lune. Mais non, il disait non, mais c'est pas parce que c'est le commandant qu'il doit marcher le premier. La NASA préférait que ce soit un civil, parce qu'Armstrong à l'époque était civil. plutôt qu'un militaire. Aldrin était resté militaire. Et puis la NASA préférait que ce soit quelqu'un qui soit posé, calme. Et Armstrong était réputé pour son calme et son flegme, pour toute situation. Donc Aldrin est rentré en colère, il était furieux, voilà. Donc il a encore fait des pieds et des mains pour dire non, mais malgré tout, moi je veux être le premier. Armstrong ne disait rien, lui il ne demandait rien, il préparait sa mission. Et donc finalement, on lui a indiqué que techniquement, au niveau de la porte de sortie du LEM, comme il serait placé dans le LEM chacun,
oui.
Ça va être difficile pour lui de, parce que c'est quand même très étroit hein, tout ça, hein, de passer derrière Armstrong avec les combinaisons, etc., pour passer le premier. Et donc, il dit non, il faut que Armstrong sorte le premier. Donc Aldrin refuse encore en disant mais ne c'est pas possible, on va tester. Et donc, il reteste en passant derrière Armstrong sur le simulateur pour dire non mais je vais y arriver. Et en fait, il casse le simulateur. Donc il lui dit tu vois bien que là tu vas pas y arriver. Et donc tu seras le second à marcher sur la Lune. Ceci dit, il était en colère.
Malgré tout ça, il a quand même de la chance d'être parti, hein.
Oui, bien sûr, il a de la chance d'être parti, mais il voulait être le premier en partant.
Comment va se dérouler ce vol à haut risque, hein, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau justement des rapports humains?
Eh bien, il se trouve qu'effectivement, Neil Armstrong, suite à sa réputation et à son caractère, en fait, garde son sang-froid de bout en bout de cette histoire. Il reste toujours très professionnel. Alors au départ, le décollage de la fusée Saturn V, on rappelle quand même que la fusée c'était un peu limite au départ, marche super bien, la mise en orbite est super, ils ont le feu vert pour partir vers la Lune, c'est ok. Donc ils ont surnommé leur module, le module de commande là où est la cabine Apollo, le Columbia, et le module lunaire, l'Aigle. Et donc ils partent vers la Lune.
Donc suite à ça, ils vont descendre jusqu'à la surface lunaire.
Donc le 21 juillet 1969... ils vont allunir dans la mer de la tranquillité, qui est en fait rocheuse, hein, c'est sur la Lune, et ils vont allunir à 7 km du point prévu. Alors pourquoi ils vont être un petit peu décalés par rapport à ce qu'ils ont prévu? C'est que les cartes n'étaient pas très très précises, et au dernier moment, Armstrong a vu des cratères là où il devait allunir, et il a dit « si je pose le LEM là-dessus, il risque d'être déséquilibré ». De se renverser. Alors là, on est très très mal. Hein.
Il s'est adapté,
il a poursuivi et du coup, il avait un petit peu de difficultés au niveau du carburant. Mais bon, ça s'est bien passé. Et alors, ce même jour de l'alunissage réussi, la sonde soviétique Luna 15 s'écrase sur la Lune.
Oh,
alors qu'elle devait se poser, ramasser les pierres et revenir avant eux.
Le même jour. Ah non, mais alors là, les Soviétiques, c'est la course à la Lune, jour-là, c'est...
C'est perdu jusqu'au
perdu
bout.
Total.
Oui.
Oh là là. Bah, j'ai quand même un peu de tristesse pour eux.
Oui.
Parce que le même jour...
Sans discussion possible, là, ils ont tout essayé, jusqu'à faire le même jour que Apollo 11. Bon, il faut dire que l'alunissage d'Apollo 11 fut délicat, et heureusement, je vais te dire qu'il y avait quelqu'un à bord qui soit calme, hein. Il y a eu une alarme de l'ordinateur. L'ordinateur était saturé. Il n'arrivait plus à savoir où il était. Il y a une baisse drastique du carburant. Donc, ils étaient sur la réserve. Et donc, ils restaient, à la fin, quand ils se sont posés, il restait 25 secondes de carburant. Donc, on n'entend rien. Et il a réussi à se poser. Sinon, il devait repartir sans se poser, parce que sinon, il s'écrasait sur la Lune. Donc,
l'alignement parfait jusque-là.
Jusque-là.
Donc, Armstrong... On peut dire que là, effectivement, il a gardé un sang-froid impeccable.
Et là, c'est le premier à sortir. Il marche sur la Lune. Donc, c'est le 21 juillet 1969. Et il va passer 2h30 en sortie de la Lune. Alors, on dit des fois, c'est le 22 juillet, parce qu'en fait, il était le 21 juillet aux États-Unis. Et nous, en Europe, c'était le 22 juillet.
Oui.
Bon, voilà. Mais sinon, la date retenue est le 21 juillet. Et il a mis sa fameuse phrase, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité. On lui a demandé qui lui avait suggéré cette phrase. Il a dit non, c'est moi, pendant le voyage, j'y ai réfléchi et j'avais pensé que ça serait bien. Voilà, personne ne lui a suggéré, il a juste réfléchi tout seul pendant le voyage. Calme et posé. Donc immédiatement, dès qu'il est sorti, il a ramassé des roches lunaires, au cas où il y a un problème qu'il faille partir en urgence. Ensuite, il a posé une caméra de télé puis le drapeau américain qui flotte sur la Lune. Alors, il n'y a pas d'air sur la Lune, mais il y avait un ressort qui permettait de faire une sensation de flottaison.
Il y a eu beaucoup de questions à ce sujet.
Oui,
tu nous y réponds tout de suite.
Tout à fait.
Mais bon, même si c'était en 1969, ça donne quand même encore des frissons d'en reparler. Hein.
Voilà.
Ont-ils déployé d'autres instruments scientifiques ?
Oui, ils ont mis en place un sismomètre pour voir s'il y avait des tremblements de lune. Ils ont mis en place un réflecteur laser qui est toujours là-bas et qui permet de tirer au laser de la Terre jusqu'à la Lune pour voir la distance Terre-Lune au centimètre près. C'est comme ça qu'on sait depuis cette époque que la Lune s'éloigne de la Terre de 3 cm par an. Et le tir au laser, il est fait depuis la Côte d'Azur en France, sur les réflecteurs laser par Apollo 11. Et puis ils ont mis une voile également pour capturer les particules, ce qu'on appelle du vent solaire, des particules radioactives qui viennent du Soleil.
Donc finalement, long voyage,
oui.
Pour l'époque, on est d'accord, mais ils sont restés en dehors du LEM que... c'est énorme à l'époque, mais pour nous, 2h30.
Oui, 2h30.
Seulement, c'est rapide, hein?
C'est rapide, mais c'était intense. Je rappelle que quand ils sont à l'extérieur, comme ça, dans les combinaisons, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas manger.
Ah oui.
Ils ne peuvent pas uriner. Enfin, ils sont comme. C'est quand même. On ne va pas uriner sur les pieds du LEM. Hein.
Oui, effectivement, vu sous cet angle, pas voilà. De barre de céréales, là.
Voilà. Donc c'était quand même chaud. Et alors, y a une anecdote aussi qui est importante. Le seul qui avait un appareil photo, c'était Armstrong. Le premier qui est sorti, il avait l'appareil photo. Mais il n'y avait qu'un appareil photo. Donc, toutes les photos de la mission Apollo 11 où on voit un astronaute, c'est Aldrin.
Ah, bah Armstrong, du coup, le premier photographié sur la Lune.
Voilà. Armstrong n'est jamais en photo sur la Lune parce que c'est lui qui avait l'appareil photo.
Oui.
Donc, on le voit dans les émissions de télé, mais les émissions sont de mauvaise qualité. Mais toutes les belles photos qu'on a d'Apollo 11, c'est toujours Aldrin. Il n'y avait qu'un appareil photo. Et à l'époque, c'était de l'argentique. Hein. Ce n'était pas du numérique.
Oui, voilà. Oui.
Donc, vous ne pouvez pas recharger la pellicule. Tiens, je change de pellicule. Non, ce n'est pas ça.
Hein. Après ce grand voyage et cette belle réussite, il faut tout de même songer à revenir sur Terre.
Oui, alors que quand il rentre, Aldrin, toujours un peu rapide, on va dire, il rentre un peu brutalement dans le LEM et il casse l'interrupteur de décollage du LEM. C'est des boutons interrupteurs qu'on, à l'époque, c'était pas on appuyait,
oui,
c'était
oui.
On montait ou on descendait.
Comme un fusible.
Oui, c'est ça. Ils le cassent. Et donc, ben, ils peuvent pas mettre en route le moteur de décollage. Donc, Armstrong ben, monte après, il constate que c'est cassé. Bon, il garde son sang-froid. Ils avaient un petit stylo. Donc, ils ont mis le stylo dans l'encoche. Ils ont levé. Et donc, c'est reparti. Heureusement.
Oui.
Parce que sinon, ils étaient bloqués sur la Lune. Le retour, après, ben, ils retrouvent le troisième homme, Michael Collins, qui est dans la cabine Apollo, qui dit que lui, il était bien parce qu'il y a beaucoup de place, là, à ce
moment-là. Oui, oui.
Et ils rentrent dans le Pacifique. Donc, ils amérissent cette fois-ci dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique. Ils vont rester 12 jours en quarantaine parce qu'on avait peur, à l'époque, qu'il y ait des germes, des microbes
oui,
qui sont sur
sûr.
La Lune et qui contaminent. Donc, en fait, il n'y en a pas, mais ils vont quand même rester 12 jours en quarantaine. Et ils vont devenir des héros. Ils vont partir dans le monde entier, faire des conférences. Et dans des trois, dans leur biographie, dans leurs remarques, ils ont dit que c'était pour eux la chose la plus difficile qu'ils avaient eu à gérer, d'être pris pour des héros, alors qu'ils étaient entraînés pour plein de choses.
Oui, mais pas pour ça.
Mais pas pour ça. Et ce qui les a quand même bien perturbés.
Mais personne n'est entraîné pour ce genre de choses.
Ouais,
hein.
Ouais.
Et que sont devenus ces trois héros ?
Alors, on va commencer par le commandant Neil Armstrong. Neil Armstrong, après avoir fait les tournées dans le monde entier, faire les conférences, etc., lui, ça ne l'intéressait pas de faire ça. Il le faisait parce qu'il était pas obligé. Mais d'être un héros, etc., ça ne l'intéressait pas. Donc, il a voulu devenir prof dans un petit collège à Cincinnati, prof d'aérospatial. Et puis, en 2012, il est décédé suite à une opération cardiaque qui s'est mal passée suite à une erreur du médecin.
Oh.
Et voilà. Donc, voilà pour lui. Pour Aldrin, le fougueux Buzz Aldrin, toujours vivant aujourd'hui. Donc, lui, il aimait bien la gloire et
la notoriété.
La notoriété. Donc, il a été nommé commandant de l'école des pilotes d'essai de l'armée de l'air. Donc ça, ça lui a bien plu. Mais bien sûr, il est vite rentré en bisbis, en conflit avec son supérieur. Selon ça, c'était Aldrin. Hein, voilà.
Sa marque de fabrique.
Voilà. Donc, il a été un peu mis sur le côté. Du coup, il a fait une dépression. Du coup, il est tombé dans l'alcool. Il a eu du mal à s'en sortir. Mais bon, il s'est sevré. Et puis après, il a écrit des livres. Mais il est toujours aussi fugueux, puisqu'on raconte qu'en 2002, il s'est battu dans la rue aux États-Unis avec une personne qui disait que personne n'avait marché sur la Lune.
Ah oui, le fameux complot.
Voilà, donc il est allé se battre.
Ouais.
Aujourd'hui, il a 96 ans et il vit toujours. Et enfin, le troisième, Michael Collins. Donc, il a été nommé dans la politique, on l'a nommé secrétaire d'État aux affaires publiques. Mais finalement, la politique, ça, c'était pas son truc non plus. Donc, il a démissionné. Et on l'a nommé directeur du musée de l'air et de l'espace de Washington, ce qui lui allait beaucoup mieux.
Effectivement.
Voilà. Donc il est resté longtemps directeur de ce musée et il est mort en 2021 d'un cancer. Il avait 90 ans.
Ils ont eu une belle vie tout de même, ces trois hommes.
Voilà.
Eh bien, voici l'aboutissement de cette course à la Lune des années 60. On peut dire, après un départ fulgurant des Soviétiques dans la conquête de l'espace, ceux-ci se sont finalement fait rattraper et dépasser par les Américains. Mais cette aventure spatiale ne se termine pas avec Apollo 11. D'autres missions ont suivi et nous aurons grand plaisir de vous en parler le mois prochain avec Olivier.
À bientôt. Bonne soirée sur RVR.
Vous venez d'écouter l'émission « Quoi de neuf là-haut avec le chaos ?»